Une graine dans votre main, une seule graine dans votre main, qu'elle soit de n'importe quoi, de blé, de tomate, ce qu'on voudra, et c'est un concentré de vie absolument extraordinaire.
CO2, mon amour.
Parce que quand vous allez mettre cette graine dans la terre, elle va, la vie va exploser à partir de cette graine insignifiante, qui paraît insignifiante, et il y a une puissance extraordinaire.
Denis Chessou.
Dans une graine, un grain de blé, on pourrait, par des multiplications, nourrir toute l'humanité.
Sur France Inter.
La vie n'est qu'un passage, et sur ce passage, au moins, semons des fleurs. C'est ce que disait Montaigne dans ses essais. Et ben, c'est ce qu'a fait donc Pierre Rabhi. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Guillaume Brou à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Train de banlieue dans un décembre naissant, longeant la voie, un fossé de drainage. Le nez collé à la vitre humide et froide défile un paysage pluvieux. Un poteau, un arbre, poteau, arbre, poteau. Par-delà le fossé, un talus, tuya, poteau, puis on déboule sur une zone lotie. Poteau, maison, maison, poteau, maison. Litanie de nos rêves, de tous les modèles d'exposition pavillonnaires disponibles et d'environnements cloisonnés. Typically French. Des haies plus ou moins taillées au cordeau de tuya, laurier du Caucase, tuya, tuya, laurier, grillage, laurier, tuya, claustra de planchette, grillage, tuya. Béton vert, bien sûr bon marché, pratique, exotique. De quoi nicher, pour sûr, quand on a deux ailes, mais absolument rien à becter, zéro diversité. Et soudain, sur 50 mètres, c'est à n'y pas croire. Et ça réveille. Vous avez une haie vive, sauvage et brouillonne de ronces, des églantiers cornouillés aux bépines d'où décolle une escadrille de piafs non identifiés, chassés par le déplacement d'air et le fracas du rail. Fugitive, aperçue, mais en tout cas très rassurante. Alors était-ce un fou, un fada, un artiste, un bohémien, un anarchiste du laisser-faire, quelqu'un qui a osé braver le consensus commun? Il a placé donc la vie à l'abri des épines, aux baies sauvages. Il a laissé cette vie aux herbes folles pour le petit peuple des hivernants. Alors, il ou elle d'ailleurs, hein, une sauveuse d'humanité à son échelle, une des formes de résistance. Mais j'y suis, mais oui, c'est un colibri qui a fait sa part là où il peut, qui sait que l'écologie devrait être une conscience avant tout. Même si l'homme prométhéen a promis une telle évolution, qui n'a plus besoin de personne que de lui-même, eh ben certains ne sont pas en rupture avec la nature, et pourquoi pas une forme spirituelle. Alors Pierre Rabhi avançait d'un pas léger, car il n'était pas alourdi de l'esprit de pouvoir et de conquête. Né aux portes du Sahara, vous le savez, dans le sud algérien, il est issu d'un îlot de verdure, d'une oasis dans un océan de sable. Il a grandi dans les contraintes du désert et le miracle de l'eau, très loin des tuyas. L'arrivée de la pluie était une fête. Alors des consciences veillent, mais d'autres s'éteignent parce que il en est des vies des sages, des sentinelles qui ne sont pas non plus éternelles. Alors oui, cultiver son jardin autrement, comme notre cerveau, est un acte résolument politique. Ne jamais se résigner. On ne doit pas se désespérer, on ne doit pas désespérer d'un seul, me disait-il. Cultiver la vie et continuer, ça goûte dans le bec comme un colibri. Et donc oui, vous l'avez compris, ça va être retour en Ardèche dans 3 minutes à peu près, donc avec cet homme qui a grandi dans un chaudron, on va dire, de contradictions entre le Nord et le Sud, tradition, modernité, chrétienté, islam, donc Pierre Rabhi au cours de cette émission.
Time being blue, just holding my head, thinking of you.
C'était Curtis Harding sur France Inter. Alors l'Ardèche est peut-être un petit peu grise aujourd'hui, en tout cas dans les esprits. Mais au moment où j'avais rencontré Pierre Rabhi, évidemment, il y avait du soleil.
C'est les montagnes Cévenoles que l'on voit bleues, un peu brumeux aujourd'hui puisqu'il fait chaud. Et de ce lieu, en faisant le tour, nous avons le privilège de voir 17 clochers. Donc nous sommes sur un plateau, mais ce plateau n'est pas très élevé. Et la configuration géologique a fait qu'on a un sentiment d'élévation, d'altitude, alors qu'en fait nous sommes qu'à 240 mètres. Mais quand nous sommes arrivés, que nous avons acquis ce lieu il y a presque 60 ans maintenant, ce lieu était à l'abandon, ce lieu était rocailleux, il a fallu que les générations en générations, les hommes et Pierre, pour obtenir des terres cultivables. Ils ont fait du verre à soie avec le mûrier, ils ont l'huile, évidemment, enfin toutes les plantes qui étaient...
Si on se retourne, vous étiez dans une ancienne magnanerie, là. Hein,
donc... C'est une magnanerie. Ouais. L'aménagement, c'était une partie, on y vivait, mais chichement, voilà, ouais. Sur un petit espace, et le reste, les grands bâtiments, étaient grands parce que le verre à soie exigeait quand même de l'espace.
C'est bien sûr là, donc du côté de l'Ablachère, que cet homme, qui ne se prenait pas du tout pour un scientifique, il n'était pas, mais pour un véritable expérimentateur, donc a travaillé. On ne parlait pas de permaculture du tout à cette époque-là. On ne parlait donc pas non plus véritablement d'agroécologie, enfin sauf lui et puis un petit cercle. Mais c'était donc là que tout a commencé. Alors c'était par un bel après-midi de cigales, voilà, et avec au premier plan donc le jardin nourricier de Pierre Rabhi. Et un homme s'approche, donc 50 kilos sur la balance, comme les humains secs du désert, comme les bêtes qui ne sont pas grasses, bah c'était dans sa culture et c'était dans son ADN. Et donc on sait que Rabhi vient d'une oasis, hein, il n'a jamais eu de cesse de faire refleurir des terres revêches et aussi de semer des graines dans les esprits, on va dire, assoiffés de consommation. Alors 50 kilos, mais sa conscience du vivant, elle, pèse de tout son poids. Expérimentateur, je vous le disais, observateur du sol, notre support premier, et puis aussi être spirituel. Alors l'homme, on le sait, donc a fait aussi chiffon rouge. Certains le détestent et le font passer pour un gourou prophète, qu'il n'est pas. Ça glissait, hein. D'autres l'aiment, mais il tient trop à sa liberté pour imposer quoi que ce soit aux autres. Et puis, quelqu'un qui a planté autant d'arbres, de haies, est plus un faiseur d'insectes qu'un faiseur de sectes. Rencontre donc chez Pierre Rabhi, donc dans cette Ardèche du Sud, sel à l'huile, et avec cette phrase en tête, pour comprendre le monde, il faut aussi comprendre le sol qui nous porte.
Quand nous sommes arrivés dans ce lieu, Nous étions évidemment déterminés et motivés par une approche philosophique des choses. Je ne voulais en aucun cas passer ma vie dans une ville avec une sorte d'incarcération à vie, où de la maternelle à l'université on est enfermé, tout le monde travaille dans des boîtes, pour s'amuser on va en boîte, on y va dans sa caisse, il y a la boîte à vue, on attend dans la dernière boîte. Comme itinéraire de vie, moi je trouve que c'est une forme d'aliénation, puisqu'on confisque à l'être humain sa durée, qui devrait être une durée, au contraire, de contemplation, d'admiration de la vie, eh ben, on lui laisse, il y a quelqu'un qui disait, 11 mois de coma et un mois de réanimation. Et on se contente de ça. Et moi, je ne juge pas les humains, je déplore qu'un système comme celui-là, qui est le produit national brut, la concurrence internationale, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça? Il faut vivre avant tout. Il faut organiser la vie pour que nous soyons heureux de vivre. Après, le produit national brut, c'est très secondaire. Et donc, on peut dire que notre protestation a beaucoup reposé sur le fait que l'être humain, devenant un rouage économique, producteur, consommateur, etc., pour moi, pour nous, nous ne pouvions pas assumer une telle, que nous considérions à tort ou à travers, ou pas, peu importe, comme aliénante.
Des clients qui se ruent dans les supermarchés pour acheter de la pâte à tartiner à prix cassé. Sur ces images amateurs, ils arrachent les peaux. Cet homme au manteau noir repart les bras chargés. Pagaille, bousculade. À l'origine de ces scènes filmées dans plusieurs supermarchés de France, une promotion lancée par l'enseigne Intermarché. Moins 70% sur le Nutella, soit 1,41€ les 950 grammes, au lieu de 4,70€.
Lorsque l'on regarde ce sol, si on se baisse un petit peu, là on est sous l'olivier, devant, donc vous avez votre potager, les salades sont sorties. Et alors racontez-nous donc le miracle, qu'est-ce qui se passe là-dessous, comme ça en permanence? Puisque donc, alors, au contraire, pour vous, le sol est tout sauf qu'un support de plantes.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas un support, mais nous, quand nous nous sommes installés, nous sommes installés dans une zone de calcaire, on appelle ça dolomitique, fissuré, etc., etc. Donc géologiquement, nous ne sommes pas dans les terres favorables, fertiles, des plaines, etc. Pour que quoi que ce soit pousse sur cette terre, des générations d'êtres humains ont épiré. Il fallait enlever les pierres pour avoir un peu de terre.
Il y a un tas de pierres incroyables qui est derrière.
Un monceau de pierres.
Petite montagne.
Des montagnes que ceux qui nous ont précédés, les ont réalisées en épierrant avec leur effort.
Et vous aussi, en arrivant.
Et nous, on a suivi la tradition, c'est-à-dire quand nous sommes arrivés. Donc cette terre qu'on voit était, on pourrait dire, stérile. Ils ont été remis en route très très tôt. Nous avons voulu choisir une agronomie qui soit une agronomie respectueuse des lois de la vie. Ce qui veut dire agriculture biologique, biodynamique, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas partant sur le principe que la terre n'est pas faite pour recevoir des engrais chimiques et en plus des pesticides explosifs. Parce que c'est d'actualité ce qui a explosé aujourd'hui. Ce sont des nitrates destinés à l'agriculture, alors que c'est des nitrates qu'on fait des explosifs pour la guerre. Donc il y a une symbolique aussi qui ne plaît pas trop. Donc on était résolument dans l'agriculture biologique, voire biodynamique. Et la différence un peu entre biologique et biodynamique, c'est que Rudolf Steiner, qui est le fondateur de la biodynamie, a en fait révélé qu'il n'y avait pas que des énergies telles lyriques ou autres, mais qu'il y a des énergies cosmiques aussi. Et que ces énergies cosmiques sont là, en abondance. Et comment en fait aller ponctionner dans cette énergie cosmique invisible, mais qui est une réalité qu'on peut, etc. Eh bien, il a inventé ce qu'on appelle la biodynamie. Et c'est pour ça que nous faisons une agriculture qui prend en compte tous ces facteurs-là.
Vous savez quoi? Vous avez qu'à traiter au pyrevert.
Pyrevert, je sais bien que c'est un pesticide. C'est peut-être bio, mais on a tendance à détruire les abeilles.
Oui, oui. Quand les pièces sont infectées, on n'a qu'à les brûler puis traiter autour. Le pH est net, c'est tout.
Alors que là, on va faire quoi? On va arroser à l'aveugle tout le vignoble? On va tout polluer? C'est complètement débile. Je suis désolé, mais on ne fait pas une chimio pour un kyste. On le retire.
Pierre, là, actuellement, qu'est-ce qui se joue que l'on ne voit pas? C'est-à-dire que si on devait donner un coup de bêche, bah, oui. On se rendrait bien compte qu'il y a des tas de choses qui se passent à 30 cm
oui.
Et qu'il y a une force du vivant qui est complètement dingue.
Oui, bah, c'est tout un univers, la Terre. La Terre, elle est évidemment stratifiée avec des couches d'aérobies qui reçoivent, qui respirent avec l'air et des couches anaérobies. Mais les deux couches sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des échanges de vitalité discrète qu'on ne peut pas nous voir. Et là-dedans, bah, il y a un roi qui s'appelle le ver de terre, qui lui, bah, il perfore la terre, il fait passer par son estomac même la terre qu'il a absorbée, et cette terre, quand il l'a rejetée, c'est une terre fertile. C'est une terre fertilisée. Donc c'est pour cette raison-là que si nous mettons des produits toxiques, chimiques, etc., nous tuons le ver de terre, plus toute la quantité de bactéries. Tout ce monde travaille jour et nuit sans être payé. Et c'est grâce à ça que nous avons de la terre cultivable, la terre arable, la terre qui peut nous nourrir. Cette faune invisible, elle est là pour fabriquer de la terre fertile. Et il faut évidemment respecter ce travail, non seulement le respecter, mais le poursuivre. Ce qui fait qu'au lieu de fertiliser avec des... en allant acheter des sacs d'engrais, eh bien, tous les déchets produits par la ferme, que ce soit fumier, herbe, etc., sont ce qu'on appelle compostés. Pourquoi c'est composté ? C'est parce que ça passe par une phase de fermentation qui aboutit à l'humus. Et l'humus, c'est ce qui se produit.
C'est un mot que vous aimez énormément.
Ah bah oui, humus, humanité, humilité, humilité, etc. C'est un mot magique. C'est un mot magique parce qu'il il représente une substance, enfin... quelque chose qui est magique aussi, quoi. C'est le résultat de la décomposition, mais c'est une décomposition positive. Et nous, on arrive et on fait ce qu'on appelle des chélations, c'est-à-dire on morcelle, on coupe, etc. Et du coup, cette harmonie de la vie intelligente, où tout ce qui vit travaille à la poursuite de la vie, mais ne travaille pas à la destruction, bien au contraire, eh bien, on essaye, très modestement d'ailleurs, d'être initié par cette règle et d'essayer d'appliquer très concrètement les principes fondamentaux de cette règle.
Alors là, nous avons donc votre petite rangée d'oliviers. Oui, quand même, vous en avez une... Allez.
Ah ben, il y en a là, il y en a en bas, il y en a... Les oliviers, j'en ai planté...
J'ai pas vu ces deux bras,
bien sûr. Oui, ça descend jusque là-bas en bas.
Ah oui, oui, oui.
Il y en a plein d'oliviers.
Oui, effectivement, il y a ce qu'il faut là. Pour l'huile, vous êtes tranquille, là. Donc,
oui, on fait une très bonne récolte d'huile.
Alors, un peu de raisin quand même, là.
Il y a un peu de raisin, là. Vous avez des vignes qui souffrent, malheureusement, un peu de la chaleur. Là, il y a un laurier qui est bien épanoui.
Bien en forme.
C'est un petit univers, une petite oasis, disons, nourricière. Et ce qu'il y a de vraiment magique, encore une fois, c'est que ça émerge d'une intention et ça nous nourrit.
Pierre Rabhi, ici c'est votre ancrage. Vous avez besoin, vous, de ces racines, vous en êtes créé, vous avez, on le sait, double culture, vous avez double religion, mais il y a aussi cet ancrage, il y a ce lieu qui est choisi. De quoi est fait cet ancrage Ardéchois-Sévenol ?
La beauté. Parce que quand nous avons voulu nous installer, il y a 50 ans, bientôt 60 ans, quand on a cherché un lieu pour nous installer, à l'époque, il y avait tellement d'exodes et d'abandons de fermes et de ça qu'on avait l'embarras du choix. Et donc, comme nous n'avions pas le moindre sou, j'ai donc fait quelques études d'agriculture de base pour pouvoir présenter mon dossier au Crédit Agricole et faire un emprunt. Bon. Alors le préposé me dit « Où est-ce que vous avez trouvé un lieu ?» etc. Je explique en attendant le dossier final, je lui explique un lieu comme ça. Vous avez l'électricité ? Non. Est-ce que vous avez l'eau courante ? Non. Est-ce que vous avez une bonne route quand même ? Non. Est-ce que vous avez une bonne terre ? Non.
Super.
Monsieur.
Au revoir, monsieur, c'est par là la sortie.
Oui, oui, on ne veut pas vous aider à vous suicider. C'était oui. Ça. Mais sauf une âme éveillée d'un préposé à la banque, sensible à ce que va, je dis, le critère fondamental, c'est que c'est beau. Et moi, je veux passer ma vie dans la beauté. Je ne veux pas passer ma vie dans un endroit où, quand on ouvre la fenêtre, on voit l'immeuble d'en face. Et la beauté, pour moi, ça compte énormément. Oui, mais vous allez en baver. Je dis, on sera tellement content d'être là qu'on aura l'énergie pour surmonter. Et c'est ce que nous avons fait depuis plus de 50 ans.
C'est pas mal quand même d'être guidé par la beauté. Et moi, j'ai une pensée aussi pour Michel qui nous écoute peut-être, je ne sais pas, en tout cas donc son épouse. On va poursuivre ce voyage en Ardèche avec Pierre Rabhi, avec là aussi de la beauté mais musicale.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Avec bien sûr l'orchestration de l'époque, Ferra, que c'est beau la vie. Et oui, c'était son voisin de palier, si j'ose dire. Donc l'un à la Blachère et puis donc l'autre à Entraigues.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Il montait haut, très haut. Ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise, mais en fait, c'est le vent, juste le vent.
Denis Chessou.
Et Pierre Rabhi, donc, qui écrivait qu'entre quelques champions de la productivité agricole, bien plus soucieuses des plus-values que de nourrir leurs semblables, eh ben, le clivage ne cesse de s'affirmer. Donc, il s'inquiétait un peu quand même d'une espèce de dépôt de bilan de la planète. Évidemment que la planète tournera avec ou sans individus, c'est pas le souci. Mais, voilà, qu'est-ce que ça va être demain? On sait très bien que gérer la rareté, ça peut être possible, mais gérer la pénurie, là, ça devient, des temps de barbarie possibles. Alors, il était spécialiste, on le sait, de la lutte contre la désertification. Il a créé des centres de formation donc à ses méthodes au Burkina Faso, au Niger, au Togo, au Sénégal, Niger, Maroc, j'en passe. Et n'oubliez surtout pas qu'en gros 55% de la population active dans le monde, ben, ce sont des paysans. Donc on le retrouve chez lui et puis, oh là, il y a des bêtes, il y a des bêtes là.
Ah, j'entends vos poules. Donc là, vous êtes autonome en neuf, quand même.
Oui. Avant, nous avions un troupeau de chèvres. Ouais. Donc on avait du lait, on avait du fromage, on avait etc. Puis là, on n'a plus d'animaux sauf nous. nos quatre poules. Et Michel est tellement douce avec que ces poules, on peut les prendre. Elles font partie de la famille, quoi.
Comment vous avez vu évoluer ce paysage, vous aussi, de l'Ardèche, quand même, depuis une soixantaine d'années?
Depuis que nous sommes là, on a vu malheureusement des incendies de montagne, on a vu des incendies qui duraient des jours et des jours, où le biotope a été beaucoup éprouvé, etc. Mais en fait, bon, les montagnes sont toujours là.
Quelle vision on peut avoir? C'est quoi le chemin aujourd'hui, alors que pratiquement dès la naissance, on vous dit profit, PIB, compétitivité, et tu seras un homme, un homo economicus, mon fils. Et là, c'est en train de vaciller quand même toutes ces certitudes.
C'est-à-dire qu'on a mis à l'épreuve des faits, par exemple l'enrichissement, l'augmentation de la matière, etc. Sauf qu'on augmente en même temps les anxiolytiques et tout le reste, et les dépressions et tout le reste. C'est-à-dire que c'est pas l'essentiel. On a cru que l'avoir allait résoudre l'être. L'être n'a rien à voir avec l'avoir. Bien sûr, si on n'a rien, on peut pas être heureux. Et c'est pour ça qu'il est quand même inacceptable que des gens n'aient même pas de quoi donner à manger à leurs enfants. C'est totalement inacceptable. Et notre conscience devrait le récuser, ne pas l'accepter. Mais pour le reste, j'ai une petite anecdote du pêcheur qui finit son travail et puis voilà, il est là, il fait sécher ses filets. Passe un monsieur très important, très réaliste, monsieur réaliste quoi, et qui regarde le pêcheur en train, voilà, et lui dit: monsieur, la barque qui est là, elle est à vous? Et il dit: oui. Oh, mais elle est petite. Vous ne pouvez pas pêcher grand chose avec ça. Vous pourriez avoir une barque un peu plus grande. Et après? Et ben après, vous aurez gagné assez d'argent pour avoir un petit bateau. Et après? Ben après, vous aurez un bateau encore plus grand, vous allez embaucher des gens, vous allez prospérer, etc. Et après? Ben après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire.
Voilà. Pierre, est-ce que vous avez encore des rêves?
Nous essayons, avec nos petits moyens, de faire que ce rêve éveillé puisse se réaliser. C'est pour ça que nous sommes des écologistes actifs, ce ne sont pas des écologistes analystes et avec une protestation uniquement basée sur les constats et remplir les bibliothèques de tas de bouquins qui parlent d'écologie. Mais qui,
on en a plein.
Mais plein. C'est pour ça que j'ai pensé au colibri en disant faire sa part. Et la légende dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés étaient impuissants devant le brasier. Le petit colibri, lui, il va chercher une goutte d'eau dans son bec, il la jette sur le brasier et il s'active. Et le tatou, je crois, l'observe depuis un bon moment, lui dit: écoute, colibri, ça va pas, quoi. Est-ce que tu penses qu'avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu? Je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça m'a vraiment paru la vérité. Si chacun de nous faisait vraiment sa part, au lieu de discourir sur le monde qui va pas, eh bien, on pourrait changer les choses.
Alors cette année, il faudrait quand même envoyer quelqu'un sur la Terre. Ça fait 200 ans qu'on n'y a pas été.
Qui va aller sur la Terre?
Personne pour la Terre? Mais qu'est-ce qu'on fait?
Comme d'habitude, on n'y va pas.
Ça fait 200 ans que ça dure quand même cette année. On devrait y envoyer quelqu'un.
Pourquoi faire?
Rien de spécial. On observe, on se renseigne, on voit ce qu'on peut faire.
On ne peut rien faire.
Sur les autres planètes, ils nous apprennent des choses. Et nous aussi, mais la Terre.
Bon d'accord, ils sont très arriérés, mais c'est pas une raison.
Et dangereux.
Qu'est-ce qui manque à l'être humain aujourd'hui pour retrouver une espèce de lien originel?
Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que les enfants, au lieu de leur apprendre la vie, et l'écologie serait une chose magnifique que de leur apprendre.
Ça commence.
Ça commence par là. Ça commence l'idée du respect et le rapport à la nature. Et il y a une autre caractéristique de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont maladroits. Il n'y a plus que des écrans. Et moi, j'ai reçu des stagiaires qui sont incapables de planter un clou. Ils n'avaient pas appris, les pauvres. Voilà, on ne leur a pas appris. Donc, à la fois, le cerveau est colonisé par tout un système international qui fait qu'il n'est pas disponible à la réalité. Les mains, qui sont ce que l'être humain a eu de meilleur pour survivre.
Avec un pouce opposé.
Et oui, s'il n'avait pas eu cette habileté, il était plus un cerveau ouvert et inventif, il y a longtemps que l'être humain aurait disparu. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que fasse Pierre Rabhi face à un tigre, je vois. Sans les mains, on peut toujours avoir des concepts, mais on ne peut rien faire sans cette habileté. Or, aujourd'hui, cette habileté est en train de disparaître.
Qu'est-ce qui vous plaît quand même dans cette jeunesse aujourd'hui? Parce qu'elle bouge, elle est certes sur des écrans, mais elle bouge, et grâce aussi aux écrans, elle s'est mobilisée.
On a comme l'impression qu'on les met dans un traquenard. Voilà, nous on s'est privé de rien, maintenant vous débrouillez-vous. Non, c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité aujourd'hui de ces jeunes, moi j'en connais beaucoup, j'en vois pas mal qui sont candidats à l'installation à la Terre. Le grand obstacle, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Alors il pourrait y avoir quand même une politique foncière qui puisse permettre leur accès à la Terre, mais sous des conditions rigoureuses, d'avoir bien appris, d'avoir fait des stages, leur apprendre aussi à piloter un lieu agricole. Et dans ce cas-là, compte tenu de cette frange de jeunes qui n'aspirent qu'à ça, pourquoi n'y a-t-il pas des dispositifs qui, sous les conditions rigoureuses que j'ai énumérées, leur rendent l'accès facile à la terre s'ils y aspirent? Et en plus, ils y aspirent dans un autre schéma. Ce n'est pas le schéma productiviste. C'est-à-dire, c'est l'installation à la terre pour avoir un lieu où on peut exercer sa vie, dans un rapport à la nature, dans le sens de comment avoir une approche jardinée plutôt que l'approche exploitée. D'autant plus que ça va exploser. C'est parce que ces jeunes qui cherchent et qui ne trouvent pas, un jour ou l'autre, on va les voir dans une protestation collective qui peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'ils sont dans une forme de désespoir.
Et ce retour à la Terre que vous avez prôné déjà depuis quelques années, vous le voyez justement, ça c'est peut-être très positif, ou en train d'émerger doucement, mais en train d'émerger quand même.
De toute façon, ça correspond réellement à une nécessité. Disons qu'il y a une phase où on a salarié les gens, et on est maintenant en phase où on ne pourra de moins en moins les salarier. Donc, que vont-ils faire? Voilà. Donc, il faudra bien anticiper sur cette crise du travail, qu'on nomme chômage, etc. Mais cette crise du travail va s'amplifier, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas parce qu'on dit les statistiques, il y a eu une augmentation des emplois de tant pour cent qu'il faut résoudre le problème global. Donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est avoir une toute autre vision. C'est-à-dire, pour moi, changer de paradigme. Quand je vois des pays même pas capables de se nourrir, c'est terrible, terrible, terrible. Ça va leur exploser à la figure. Le fait de ne pas avoir suivi et dopé l'agriculture nourricière et qui sont allés de plus en plus vers l'importation, ça va leur exploser à la figure.
Exemple la Tunisie et d'autres pays.
L'Algérie, enfin des tas de pays qui sont endormis sur la rente pétrolière et puis le reste.
Et donc voilà. Ça va nous exploser aussi à la figure également.
Oui, oui, et d'autant plus aussi que si on prend la question alimentaire, bien sûr, c'est le problème foncier. C'est le problème de l'apprentissage et des disponibilités humaines pour le faire.
Pierre, la grande affaire de votre vie, ça a toujours été donc le sol, la nourriture, la sagesse. Alors vous ne parlez pas de décroissance, vous parlez de sobriété heureuse. Quelle est votre identité, ou plutôt vos identités?
Disons, quand on est dans une forte conviction, parce qu'on est en dialogue avec la nature, qu'on est en connivence et en coopération avec la nature, on est déjà dans notre milieu réel. Donc ça procure quand même une certaine satisfaction. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Moi, j'ai reçu de ces claques en jardinant. Vous faites pousser les choses, une maladie tombe dessus, ça y est, ou des insectes viennent tout bouffer, etc. Je ne veux pas dire que c'est toujours garanti que les réussites sont là. Mais avec une énorme satisfaction de cette espèce de magie de la vie.
Ah, regarde, un piqué.
Tu me donnes un peu de
vin? Pour les tomates espagnoles, elles sont pas mauvaises. Hein,
si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
Mais il y a tout ici, il y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
On peut faire des tonnes de tomates avec une graine de tomate. C'est quand même incroyable. Moi, tel que je suis là, on est sur le lieu de mon jardin, je gagne assez ma vie pour acheter mes légumes, mes fruits, tout ce que je veux. Mais j'ai toujours dit non. Je veux continuer à être un jardinier tant que, évidemment, je le peux. Un jour, peut-être que je ne pourrai plus.
Mais vous êtes en relation avec cette terre, toujours?
Il y a une relation, il y a une symbolique, il y a quelque chose qui nourrit l'âme. Et quand je mets sur la table familiale des denrées sorties du jardin, et qu'il y a les enfants qui sont là, j'ai une fierté absolue. Et ben voilà. Extraordinaire. Voilà.
Et puis un grand sourire sur lequel on va se quitter.
Merci.
Grand merci Pierre Rabhi, et puis à très bientôt.
Ben merci beaucoup Denis de me permettre de m'exprimer. Ça m'aide d'ailleurs à m'exprimer.
Vous avez d'ailleurs aussi un ouvrage aux éditions Plume de Carotte. Alors là, c'est le côté La Tulu, mon petit loup, donc ça c'est pour les enfants, qui s'appelle tout simplement Pierre Rabhi, l'enfant du désert. Et puis il y a eu une conversation entre Edgar Morin, qui est aussi touché par évidemment la disparition de Pierre Rabhi, et ils avaient fait un ouvrage ensemble qui s'appelle Frère d'âme, donc ça c'est aux éditions de l'Aube. Puis je vous conseille aussi les carnets d'alerte que Rabhi a signé avec Juliette Duquesne, qui est donc une journaliste, et c'était aussi Vivre mieux sans croissance, entre autres. La semaine prochaine, eh ben nous allons quitter l'Ardèche et on va se retrouver, ah bah tenez, en Île-de-France, on sera donc en Seine-et-Marne, nous serons à la découverte du Grand Morin, avec un auteur qui est à la fois plein de poésie, qui a une jolie plume et qui est du coin, qui s'appelle Philippe Pichon. Donc on fera ça, on découvrira aussi un petit peu le chanvre qui existe sur le plateau. Donc le Grand Morin et la Seine-et-Marne, donc à l'honneur dans notre herbier de paysage la semaine prochaine. Merci à Guillaume Roux qui était aujourd'hui à la technique, à Camille Blanès et Xavier Pessugia qui réalisait l'émission. Thierry Dupin, me semble-t-il, non j'en suis sûr, il a donc choisi les disques, et puis Anne Gouzon donc nourrit les sites de CO2.